C'est quoi ce petit sourire?
Je viens de raccrocher avec mon conseiller Carac.
Pour ton plan d'épargne retraite?
J'ai fait le point sur mes placements. À la Carac, ils ont un fonds en euros parmi les plus performants du marché, figure-toi.
Et c'est avantageux fiscalement?
Oui, je peux réduire le montant de mes impôts et je vais avoir une meilleure retraite.
Top!
Et la Carac ne me prend aucun frais sur mes versements. 0%. À la Carac, on se bat pour vous. Retrouvez toutes nos conditions générales sur carac.fr. Tout investissement présente un risque en perte de capital. La Carac, mutuelle soumise au livre 2 du Code de la Mutualité.
h 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Dans les années 1960, Picasso s'est entretenu, ou il le faisait depuis longtemps déjà, avec la journaliste Hélène Parmelin. Et il lui a dit, notamment, en tout cas c'est ce qu'elle rapporte, au fond, quand on parle d'art abstrait, on dit toujours que c'est de la musique. Quand on veut en dire du bien, on parle musique. Tout devient musique. Je crois que c'est pour ça que je n'aime pas la musique. Ah bon ? Picasso n'aime pas la musique, et pourtant, la musique est partout dans son œuvre, des premières scènes de la vie gitane aux joueurs de flûte dans les années 70. On pense évidemment également à la flûte de Pan, merveilleux tableau. Il y a les guitares cubistes, il y a toutes sortes de collaborations, notamment avec les ballets russes, il y a des poèmes sonores de toutes sortes. Bref, nous allons y venir. Picasso était l'ami de Satie, de Stravinsky, de Manuel de Falla. Il a d'ailleurs portraituré un certain nombre d'entre eux dans des dessins qui sont exposés, qui ont été récemment exposés au Centre Pompidou, dans une expo qui s'appelait « Picasso dessiner à l'infini ». Ces portraits d'instrumentistes sont souvent des autoportraits, en vérité, mais qui ne disent pas leur nom, bien entendu. Les autoportraits d'un homme hanté par ses obsessions.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Pablo Picasso naît à Malaga en 1881, mais l'Andalousie va céder la place à d'autres régions d'Espagne. Vous savez qu'il a suivi sa famille en 91 à La Corogne, ensuite à Barcelone en 95. Son père était prof à l'école des Beaux-Arts à Barcelone. Il a fait des études qui l'ont pas mal ennuyé à Madrid. Il est revenu donc dans la capitale catalane, attiré par la vie artistique, également par tout ce que permettait la vie nocturne de Barcelone, avec ses maisons closes notamment. Il avait ce tempérament qui lui permettait d'assimiler le réalisme espagnol, mais d'en faire quelque chose de nouveau, avec cette empreinte qui est la sienne. Picasso a baigné dans une ambiance musicale dès sa prime enfance à Malaga. Malaga, c'est la ville de la zarzuela, vous savez, cette espèce de spectacle musical espagnol. C'est pas tout à fait l'opérette, c'est assez différent. Ce genre typiquement espagnol a un ton qui a quelque chose, comme toujours en Espagne d'ailleurs, de plus tragique. Il y a un lien avec la mort dans la zarzuela qui souvent finit dans le sang. Bref. La sœur de Picasso, Lola, joue du piano. Son oncle fait partie de l'orchestre municipal. Donc, pour quelqu'un qui n'aime pas la musique, vous voyez qu'il a quand même baigné là-dedans. Il y a toutes sortes d'instruments qui sont présents dans le foyer des Ruiz Picasso. Des tambourins, notamment, que Pablo s'approprie et détourne pour en faire quelque chose de pictural. Son père lui fait découvrir les corridas, qui sont, ne l'oublions jamais, des spectacles quasiment autant sonores que visuels. Picasso apprécie cette musique. Il aime aussi la musique des cirques, la musique des foires, bref, tout ce qui bouge, si je puis dire. Et ses premières toiles musicales mettent en scène des gitanes. Il peint des études de joueurs de clarinette, de flûte. Il développe un goût pour les musiques populaires espagnoles, notamment le flamenco qui fait partie des traditions andalouses. Picasso, tout au long de sa vie, appréciera ces espèces de musiques, comment est-ce qu'on pourrait les qualifier, des musiques de liesse et de partage, des musiques de fête, des musiques populaires. Sa muse semble rechercher une espèce de communion avec un peuple qui chante et qui danse et qui tambourine, si vous voulez. À 18 ans, il fréquente un cabaret, le cabaret des Quatre Gats, qu'on a des quatre chats, si vous voulez, mais aussi le café-concert du Parallelo, de l'Eden-concert également, des endroits à la mode, bref, qui sont autant d'occasions d'écouter les musiques qu'on écoute en Espagne, les musiques de Granados, d'Albéniz, bien entendu. Il va sympathiser aussi avec un certain nombre de compositeurs à ce moment-là. Il fait la connaissance d'un virtuose du piano, Ricardo Vines, qui deviendra son intime à Paris, qui deviendra aussi un proche de Debussy, de Satie, de Ravel. Alors, je parle de Paris. C'est en 1900, à l'occasion de l'expo, de l'exposition universelle, que Picasso vient présenter un de ses tableaux à Paris. Il est, à l'époque, au milieu d'une communauté de Catalans exilés. Il va s'établir avec eux dans le quartier de Montmartre et s'imprègne de l'atmosphère du Moulin de la Galette, bien entendu. Il est dans cette atmosphère assez particulière. En 1904, Picasso s'installe dans un atelier du Bateau Lavoir, cette cité d'artistes, qui est un petit peu la Villa Médicis de la peinture moderne. Enfin, c'est comme ça qu'on l'a appelé, avec peut-être un peu de facilité. Il va fréquenter des lieux nocturnes, encore une fois, parfois un peu interlope, place de Clichy, sur la butte Montmartre, on le voit dans les cabarets, on parle du Lapin Agile, mais c'était pas le seul, dans les cafés-concerts, etc. Et il est milieu de toute une petite communauté d'artistes, dont fait partie Éric Satie. Éric Satie, à qui plus tard va le lier une véritable amitié. Et l'attention de Picasso pour la figure du musicien se traduit dans ses tableaux. Vous avez des portraits de saltimbanques, d'arlequins, de musiciens de cirque. Ça, c'est une inspiration de ce qui se passe en bas de la butte, au cirque Medrano. Il croque aussi avec empathie les musiciens de la rue. D'une façon, on pourrait presque dire que ce musicien de la rue, c'est un autoportrait. C'est peut-être, il éprouve en tout cas une véritable fraternité avec ce petit monde du petit peuple d'un Montmartre qui, à l'époque, ne l'oublions pas, est ouvrier. Il y a dans les périodes bleues et roses de l'artiste des figures tragiques de joueurs de violon qui sont victimes d'une certaine manière, qui sont présentés comme des victimes de la société. L'attention de l'artiste va se porter sur les corps, les visages, avant l'avènement du cubisme qui présente les instruments, alors là sous des angles très différents, qui donne lieu à des mises en abîme artistiques. Les joueurs de mandoline, de guitare apparaissent, et on va voir peu à peu l'objet prendre une place plus importante, l'objet qui va d'une certaine façon s'emparer de la toile et de l'art de Picasso.
Une version orchestrale du tombereau de Couperin de Maurice Ravel, l'Orchestre symphonique de Montréal était sous la direction de Charles Dutoit.
Vous écoutez Radio Classique.
Alors évidemment, dans la période cubiste, vous imaginez bien que la figure recule au profit de l'objet. C'est le but même du cubisme, hein, c'est d'atteindre à l'essence des choses. C'est en tout cas ce que voudraient les artistes de cette époque, avec Braque, Juan Gris, bien entendu, ou d'autres. Et Picasso va privilégier à ce moment-là les natures mortes. Si l'on en croit Cécile Godefroy, qui est historienne de l'art, elle nous dit que représenter la musique en tant que sujet, c'est affirmer que la peinture figurative est la seule voie possible. Montrer la matérialité de la musique, c'est montrer que l'abstraction n'existe pas. Et c'est vrai que Picasso, toute sa vie, même quand il va faire des œuvres incroyablement avant-gardistes et qui s'en vont loin dans l'imaginaire, dans la fantasia, néanmoins, il s'oppose, si l'on peut dire, à une abstraction qui, elle, a tendance à se présenter effectivement comme musicale. Et on comprend la déclaration qu'il fait quand il dit que c'est parce qu'on dit que l'art abstrait est musical qu'il n'aime pas la musique. Bon, Picasso n'en est pas moins baigné dans un univers musical. Il est l'ami de Déodat Sévrac, le compositeur Déodat Sévrac, dont Debussy disait qu'il fait de la musique qui sent bon, on y respire à plein cœur, disait-il. Et il rend visite à son ami dans son petit village des Pyrénées-Orientales qui s'appelle Céret. Il y a un tableau cubiste d'ailleurs où apparaît l'inscription Cort, C-O-R-T. Alors il y en a qui ont voulu voir une allusion au grand pianiste de l'époque, Alfred Cortot. C'est possible. D'autres nous disent que c'est plutôt une référence à la Cobla des Cortiers, qui est un petit orchestre de Céret qui était composé de hautbois et qui jouait des danses traditionnelles catalanes, des sardanes notamment. Avec l'aventure moderne, bien les choses évidemment sont plus complexes. On va voir Picasso travaillait davantage avec des musiciens, avec les ballets russes de Serge de Diaghilev, bien entendu. Le projet de Parade est lancé sur une idée de Jean Cocteau. J'ai eu l'occasion de vous parler ici de Parade et du grand rideau de scène qu'avait fait Picasso. Le chorégraphe Léonid Massine travaille, bien entendu, avec tout ce petit monde. Et on peut dire que l'entente entre le compositeur, le peintre et bien entendu le chorégraphe, c'est une entente tout à fait qui crée une sorte de spectacle total qui va faire scandale aussi, bien entendu. André Gide ne peut s'empêcher de noter, mais André Gide est souvent méchant, Cocteau se promène dans la coulisse où je vais le voir, vieilli, contracté, douloureux. Il sait bien que les décors et les costumes sont de Picasso, que la musique est de Satie, mais il doute si Picasso et Satie ne sont pas de lui. Bon, le public, lui, dans la salle, n'est pas toujours emballé par Parade. Deux autres productions vont suivre avec les ballets russes, à commencer par Le Tricorne, qui est créé à l'Alhambra de Londres en 1919, donc juste après la guerre. Et là, Picasso va renouer avec ses racines, hein, puisque l'histoire est tirée d'un roman espagnol. La musique est signée de Falla. Le compositeur et le peintre s'accordent pour moderniser la tradition. Ils associent flamenco, corrida, avec les costumes qui vont avec, les costumes chatoyants de tout ce folklore de l'Espagne. La corrida est présente en 1921 dans un autre ballet russe qui s'appelle Cuadro Flamenca. Et là, Picasso, d'une certaine manière, paraît renaître. On est dans le lendemain de la guerre en même temps. Il y aura eu aussi Pulcinella, qui en 1920 va permettre une rencontre au sommet entre Picasso et le musicien des ballets russes, le prodige Igor Stravinsky, qui est un petit peu, si vous voulez, le double musical de Picasso. Il a la capacité, comme Picasso du reste, de changer de style, de se muer en créateur qui passe d'un courant esthétique à l'autre, avec une espèce de facilité comme ça. Ce sont des dévoreurs d'art et de courants, Stravinsky et Picasso. Et leur carrière, à tous les deux, s'apparente, si l'on en croit Picasso, un caméléon qui marcherait sur un arlequin. C'est tellement joli, c'est tellement bien dit.
Stravinsky, nous dit Jérémy Bigori qui a préparé cette émission, opère dans cette œuvre un tournant esthétique en prenant pour modèle des musiques du passé, en l'occurrence des œuvres instrumentales et vocales d'un compositeur italien du début du XVIIe siècle, surtout connu pour son Stabat Mater, qui est Jean-Baptiste Pergolèse. On ne saurait mieux définir, nous dit-il, la réussite de la collaboration de Stravinsky avec son défunt confrère qu'en citant la phrase du musicologue Nicolas Nabokov, seul un colonialiste comme Stravinsky pouvait inventer, à partir d'un territoire nommé Pergolèse, une œuvre aussi personnelle. Nicolas Hallstedt au violoncelle et Francesco Piemontesi au piano interprétaient cet arrangement pour violoncelle et piano de Pulcinella. Évidemment, c'était Stravinsky.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Satie et Picasso vont poursuivre la collaboration entamée. C'est une amitié, c'est une espèce de... Il y a quelque chose de... C'est un peu le mariage de la carpe et du lapin, les deux, il faut bien le dire. Et ils vont néanmoins travailler un nouveau ballet qui s'appelle Mercure en 1924, qui est donné dans le cadre des soirées de Paris. C'était à la grande époque du comte de Beaumont, la grande mondanité de l'entre-deux-guerres. Il y a toujours à la chorégraphie un certain Massine. Cette fois, à la baguette, il y a le chef Roger Desormières. Et voilà ce que nous dit Satie. Je suis pas sûr d'ailleurs qu'il nous aide à bien comprendre la nature de cette collaboration. Voilà ce que dit Satie. S'il a un sujet, ce ballet n'a pas d'intrigue. Il est purement décoratif. Et vous devinez le merveilleux apport de Picasso que j'ai essayé de traduire musicalement. J'ai voulu que la musique fasse corps, pour ainsi dire, avec les faits et gestes des gens qui se meuvent dans ce simple problème. Ces poses sont exactement semblables à celles que l'on peut voir dans toutes les foires. Le spectacle s'apparente au music hall, tout bêtement, sans stylisation, et par aucun côté n'a de rapport avec les choses de l'art. J'en reviendrai d'ailleurs au sous-titre de pose plastique que je trouve magnifique. Voilà, débrouillez-vous avec ça. Ces gens, c'est fascinant d'ailleurs ce qui se passe au lendemain de la Première Guerre mondiale. L'espèce de plongée de toute une génération d'artistes créatifs, brillants, extraordinaires, dans une sorte d'invention pure et simple qui est tout pont coupé avec ce qu'on avait pu connaître. Les décors de Picasso pour ce ballet, pour Mercure, figure un Olympe où apparaissent un Polichinelle, un philosophe. Gertrude Stein voit là-dedans de la pure calligraphie, dit-elle. Quelque chose qui existait en soi sans le secours, ni d'association d'idées, ni d'émotions. Nous voilà bien. Fernande Olivier, la compagne de Picasso, un peu plus tôt, hein, une vingtaine d'années plus tôt, écrira dans ses mémoires « L'unique personne que j'ai entendu raisonner clairement et simplement du cubisme fut Éric Satie. Je crois que lui seul, s'il avait écrit sur le cubisme, aurait pu le faire comprendre aisément, mais sans doute de telle façon que les peintres intéressés l'eussent renié, c'eût été trop clair. » Oui, peut-être, en effet, finalement. C'est Max Jacob, un des premiers amis de Picasso à Paris, qui va initier le peintre, l'artiste, le plasticien à la musique classique en l'emmenant pas mal au concert. On pense pas que ça ait d'ailleurs tellement marqué Picasso, entre nous soit dit, mais il y a quand même dans son art une permanence des instruments, des musiciens. On peut dire que la musique est constante dans l'œuvre de Picasso. Il y a aussi les séries d'aubades, il ne faut pas oublier ça, autant de variations musicales et plastiques se renouvellent constamment de l'intérieur. Picasso s'est coulé dans la tradition, que ce soit pour l'embrasser ou pour s'y opposer d'ailleurs. Ce thème de l'aubade, c'est un air chanté à l'aube pour une amoureuse, hein. Ce thème agit comme une sorte de journal intime de ses propres sentiments, de ses propres amours, dont vous savez qu'elles sont, d'une certaine manière, assez fluctuantes. Mais qu'est-ce qui, chez Picasso, n'est pas fluctuant ?
Franck Ferrand, sur Radio Classique.
Il fait toujours partie du petit cercle qui entoure le groupe des six. Ce qu'on appelle le groupe des six, c'est Millot, Poulain, Koenigsegg, Duret, Auric et Germaine Taillefer. Et il va les accompagner, si je puis dire. Par exemple, la victoire de Guernica de Georges Auric, d'après un poème de Paul Éluard, directement inspiré lui-même du tableau de Picasso, va rester à l'état de fragment. Ça ne donne pas grand-chose. On peut pas dire que ce compagnonnage avec le groupe des six ait été très fructueux sur un plan artistique, mais il a existé. Beaucoup de scènes. De scènes musicales cachent chez Picasso les angoisses du peintre devant l'état du monde, mais on doit pouvoir dire ça d'à peu près tout ce qu'il a fait d'ailleurs. Elles sont aussi peut-être une façon pour lui de créer une sorte de tisser une sorte de cocon protecteur à travers un retour à l'âge d'or. Bon, je vous ai parlé de la flûte de Pan, bien entendu, le plus célèbre des tableaux musicaux de Picasso, qui date de 1923, mais il y a aussi le faune blanc jouant de la Diole, ça c'était en 46, le triomphe de Pan, qui a été complété par-delà l'hommage à Poussin, qui a donné en quelque sorte, qui a montré des joueurs de flûte, de guitare, qui donnent la sérénade à ces femmes nues, allongées. On peut dire que la toile témoigne des pulsions de Picasso, ce qu'il y a d'éros en lui. C'est l'artiste Minotaure, c'est le créateur absolu qui déplace et qui dérange tout, et qui dérange même, quand il le faut, la musique.
Vous écoutez Radio Classique.
Merci à Jérémy Bigori et bonjour à Christian Morin.
Je ne savais pas comment me mettre de profil peut-être pour présenter un tableau de Picasso ce matin, mais enfin je suis resté dans ma normalité. À propos de cette évocation
mais
ce matin...
Mais comme vous, Picasso, vous aussi vous êtes très inspiré par la musique. Hein. Note légère, mais on peut dire, non mais on peut dire que
oui, tout à fait.
L'instrument, l'orchestre, le musicien, le compositeur, tout ça vous inspire beaucoup. Vous.
Mais quand je travaille, quand je dessine, j'écoute beaucoup de musique.
C'est vrai.
Il y a un documentaire sur Sampé qui lui... écoutait uniquement Duke Ellington ou Count Basie quand il dessinait, et un jour il était chez Eddie Barclay après un concert de Duke Ellington, il raconte cette histoire, et il s'est mis à jouer l'indicatif de Take the Train de Duke Ellington, et à un moment on lui a tapé sur l'épaule, c'était Duke Ellington qui arrivait au cocktail à l'invitation de Barclay, et il lui a dit poussez-vous, continuez de jouer, et il a fait les parties de main gauche, donc c'était très émouvant. Pour revenir simplement à Picasso et la musique, si vous avez l'opportunité d'aller au Petit Palais actuellement, où il y a Paris, le Paris de la modernité, on voit quelques éléments de décor de Picasso pour Parade, Cocteau, bien sûr,
oui, Satie
encore.
Oui, oui,
toujours.
Bien sûr.
Très intéressant à voir le travail qu'il y avait, cette émulation qu'il y avait entre eux quand même. Création, la créativité. Merci beaucoup. Cet après-midi, on vous retrouve bien sûr à 14h avec, cette fois on change de sujet, c'est Louis XIII. Louis XIII, maintenant je suis roi. C'est Loutres qui parle, hein, je vois.
C'est la mort de Concini, en fait.
Oui, encore des histoires. Ça va encore faire des histoires. Que vous pourrez nous raconter, d'ailleurs, avec joie. Passez un excellent week-end.
Bon week-end à vous.